Lorsque l'apôtre Jean revoit Jésus de nouveau dans sa vision de l'Apocalypse, Jésus lui apparaît bien différemment de ce qu'il était lorsque il le connaissait sur terre. Plusieurs images différentes de Jésus sont présentées à lui. Et dans les premiers chapitres de l'Apocalypse, Jésus est présenté comme celui qui a la clé et qui est capable d'ouvrir les portes. Regardez dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, au verset 7, il est dit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » L'Apocalypse présente dans ses premières pages Jésus comme celui qui a la clé, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre les portes. Et quand on y pense, pendant son ministère sur la terre, Jésus a ouvert de nombreuses portes. Et je pense à 7 portes que Jésus a ouvertes pendant son ministère. 7 portes que j'aimerais regarder rapidement avec vous ce matin, en commençant par l'évangile de Marc. Évangile selon Marc, au chapitre 7, se trouve là la première porte que Jésus a ouverte. Évangile selon Marc, au chapitre 7, au verset 32, il est dit ceci. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Voilà la première porte que Jésus ouvre. Il a ouvert les oreilles et la langue à cet homme qui n'entendait pas et qui ne parlait pas. On n'a pas idée de la transformation que Jésus opère dans la vie de ces gens qu'il rencontre et qu'il touche. Cet homme n'entendait pas, ne parlait pas, ne pouvait pas communiquer avec ceux qui l'entouraient. Maintenant, il entend. Il entend tout ce qu'on lui dit et la première voix qu'il a entendue, c'est la voix de Jésus. Les premiers mots qu'il a adressés, c'est à Jésus. Il a ouvert les oreilles de cet homme pour qu'il entende. Mais il y a plusieurs oreilles que Jésus pourrait ouvrir. Et nous pouvons reconnaître que Jésus a aussi ouvert nos oreilles. Ces oreilles intérieures qui nous ont permis d'entendre l'appel du Christ à lui répondre. Répondre pour l'accepter comme notre sauveur personnel. Un appel qui était adressé par le Saint-Esprit à nos cœurs. Ouvrir les oreilles intérieures pour entendre Dieu qui nous parle. Vous vous souvenez, Jésus avait souvent employé cette expression que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il voulait attirer l'attention sur ces paroles comme étant des paroles à recevoir avec le cœur. Jésus a aussi ouvert une autre porte. La deuxième porte que j'aimerais regarder avec vous se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 9. Évangile selon Matthieu, au chapitre 9, à partir du verset 27. Évangile selon Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 27, il est écrit ceci. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors, il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. C'est la deuxième porte que Jésus ouvre. Il ouvre les yeux des aveugles. Il va rendre la vue à cet homme. Mais nous n'avons aucune idée du bouleversement que cela produit dans la vie de cet homme. Je pense à cet aveugle de naissance dont il est question dans l'évangile de Jean au chapitre 9 et que Jésus va guérir. Cet homme, on lui parlait du ciel bleu, on lui parlait de l'herbe verte, on lui parlait des champs qui étaient jaunes, prêts pour la moisson. On lui parlait de ces coquelicots rouges dans les champs, mais il n'avait aucune idée de ce dont on parlait. Bleu, rouge, blanc, vert, c'est quoi une couleur pour quelqu'un qui n'a jamais vu de sa vie? On essayait de lui décrire les beaux paysages, les couchers de soleil. Il n'avait aucune idée de ce dont on lui parlait. Et cet homme voit les portes de ses yeux qui s'ouvrent, et le premier visage qu'il voit, c'est le visage de Jésus qui sourit de plaisir à voir que cet homme est en train de découvrir ce dont on lui avait parlé, mais dont il n'avait aucune idée. Et les gens autour de lui s'amusent à le voir regarder avec émerveillement comme un petit enfant les choses que nous prenons pour acquises de tous les jours et qu'il découvre tant elles sont belles pour ses yeux qui n'avaient jamais vu. Jésus ouvre la porte des yeux de cet homme et il voit. Mais il y a aussi le regard intérieur. Il y a plusieurs regards, il y a plusieurs manières de voir. Et dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24, se trouve encore un événement où Jésus va ouvrir les yeux. Luc chapitre 24, verset 30. Luc chapitre 24, au verset 30, il est dit ceci. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Vous connaissez l'histoire, ces disciples d'Emmaüs sont complètement bouleversés par la mort de Jésus. Tout ce qu'ils avaient compris s'effondre pour eux et ils marchent la tête basse en chemin de retour à la maison après avoir été témoins de la crucifixion de Jésus. Et ils rencontrent cet inconnu en chemin qui les interpelle. Cet homme qui semble ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem et qui va leur faire une étude biblique. Et finalement, arrivé dans leur maison, Jésus va reprendre avec eux le repas du soir. Et vous remarquez que dans le texte, ce repas du soir est présenté dans les termes de la Sainte Cène. C'est à ce moment-là que leurs yeux s'ouvrirent. Et ils ont reconnu Jésus à ce moment-là. C'est à ce moment-là que Jésus a permis qu'ils voient qui était avec eux. S'ils avaient vu dès le départ, ils n'auraient même pas écouté, ils auraient été remplis de joie de voir que Jésus était vivant, ils n'auraient même pas écouté cette étude biblique exceptionnelle que Jésus leur a donnée sur les prophéties. Mais là, Jésus va ouvrir leurs yeux. Ils étaient pris par l'incrédulité, pris par les fausses idées, pris par les préjugés, pris par une foule de choses qui empêchaient finalement que Jésus apparaisse à leurs yeux comme il était réellement. Maintenant qu'ils ont entendu la parole de Jésus, leurs yeux s'ouvrent et ils le voient. Mais ce n'est pas nécessaire qu'ils le voient plus longtemps, parce qu'ils l'ont maintenant dans leur cœur. Jésus ouvre les yeux. Est-ce que Jésus n'a pas aussi ouvert vos yeux? Est-ce que Jésus ne vous a pas rendu capable de voir ce qu'il a fait dans votre vie depuis longtemps, des choses extraordinaires? Est-ce que vous êtes encore capable de voir les choses grandes et petites que le Seigneur a fait pour vous dans votre vie? Est-ce qu'il a ouvert vos yeux pour que vous puissiez le voir intervenir dans votre existence à des moments particuliers? Seigneur, a-t-il aussi ouvert vos yeux? Il y a une troisième porte que Jésus a ouverte. Elle est aussi décrite dans cette même histoire, un petit peu plus tôt, au chapitre 24, toujours de l'évangile de Luc. Au verset 27, il est dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Et un peu plus loin, leur réaction que vous connaissez au verset 32, ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin ?» et nous expliquait les Écritures. Cette troisième porte que Jésus ouvre, c'est sa parole. Jésus est en chemin avec eux, et il va leur parler des prophéties, mais il n'a pas sa Bible avec lui, il n'a pas les parchemins sous le bras. Il va de mémoire citer les prophéties de l'Ancien Testament, prophéties qu'ils connaissent. De mémoire, il va leur expliquer ces textes dans leur contexte et leur faire comprendre ce que ces textes veulent dire à son sujet. Je paierai cher pour pouvoir entendre l'enregistrement de cette étude biblique. Une étude biblique de Jésus, à propos de Jésus, avec les commentaires de Jésus. Une étude biblique incroyable. Toute de mémoire, Jésus a ouvert la parole. Et ils l'ont ressenti comme tel, parce que, après coup, ils ont réagi et se sont dit, mais notre cœur brûlait en dedans de nous alors qu'il nous ouvrait les Écritures. Que les Écritures prenaient du sens alors qu'il les présentait. Et qui d'autre? Qui mieux que Jésus peut présenter la parole? Parce que il est la parole. Il est la parole vivante. Il n'y a que lui pour présenter la parole écrite comme il peut le faire. C'est lui-même, après tout, qui l'a inspiré au départ. Il a ouvert cette parole. Et je crois que le Seigneur a aussi ouvert sa parole à chacun d'entre nous, sinon nous ne serions pas là aujourd'hui. Le Seigneur vous a donné l'occasion d'ouvrir sa parole, de la lire, de l'entendre. C'est une grâce que bien des gens dans le monde n'ont pas reçue encore. Ouvrir la parole de Dieu, c'est un privilège extraordinaire. C'est un privilège extraordinaire d'avoir la parole de Dieu qui nous est présentée, qui nous est ouverte, qui nous est expliquée. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a une quatrième porte encore que Jésus va ouvrir. Dans Luc, au chapitre 24, un petit peu plus loin, au verset 44, il est écrit ceci. Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » Il leur ouvrit l'esprit. Il n'a pas simplement ouvert la parole, il a aussi ouvert leur esprit pour qu'ils saisissent le sens profond de sa parole. C'est ici une œuvre tout à fait miraculeuse que Jésus fait pour ses disciples. Parce que vous le savez, dans le récit des évangiles, il nous est rapporté que bien des fois Jésus parlait à ses disciples et ne comprenait rien. Plusieurs fois il est dit que Jésus leur a ouvertement parlé clairement et sans parabole qu'il allait être mis à mort, maltraité et qu'il allait ressusciter. Mais ils ne comprenaient rien. Et pourtant, Jésus parlait clairement. Qui d'autre que lui pouvait parler si clairement? Mais leur esprit était empêché de comprendre ce qu'il voulait dire. Là, Jésus va accomplir un miracle plus grand encore que celui qui consiste à ouvrir les yeux, les oreilles d'un malade. Il va ouvrir leur esprit pour que la parole de Dieu prenne tout son sens. Et je crois que le Seigneur a aussi ouvert notre esprit. Et si vous avez l'impression que le Seigneur n'a pas encore ouvert votre esprit, c'est une porte qu'il peut ouvrir. Nous pouvons lui demander, Seigneur, ouvre mon esprit pour que je comprenne ta parole. Le Seigneur peut ouvrir notre esprit pour que nous comprenions qui il est. Il peut ouvrir notre esprit pour que nous comprenions qui nous sommes. Il peut ouvrir notre esprit pour que nous comprenions à quel point nous avons besoin de lui, à quel point nous avons besoin de sa parole vivante, du Christ lui-même, en personne, dans nos vies. À quel point nous avons besoin de comprendre sa parole, ayant reçu de sa part le Saint-Esprit de Dieu, celui-là même qui l'a inspiré pour que les prophètes nous le transmettent. Le Seigneur peut ouvrir notre esprit pour que nous comprenions comme Dieu a voulu que nous comprenions sa parole. Alors, le Seigneur a-t-il ouvert votre esprit pour que sa parole ait du sens? Pour que nous nous réjouissions chaque fois qu'il est question d'ouvrir sa parole et de découvrir qui il est, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fait encore maintenant? Est-ce une joie parce que la parole a du sens pour notre cœur? Il y a une cinquième porte que Jésus a ouverte. Il en est question dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28. Évangile selon Matthieu au chapitre 28. J'aimerais lire les versets 2 à 6. Évangile selon Matthieu, chapitre 28. Au verset 2, il est dit ceci. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » La cinquième porte que Jésus ouvre, c'est la porte de la tombe. Jésus ne pouvait pas rester dans la tombe. Il avait dit d'ailleurs lui-même, « Je donne ma vie, je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. » Ça nous est rapporté dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Jésus avait ce pouvoir de donner sa vie, et c'est ce qu'il a fait en sacrifice. Sa mort n'est pas un meurtre, mais il a le pouvoir de la reprendre. Ce Jésus pleinement homme, pleinement Dieu, ne pouvait rester dans la tombe parce que sa mort est la plus grande injustice de tout l'univers. C'est à ce prix-là, au prix de cette injustice-là, qu'il a gagné la possibilité d'offrir à chacun d'entre nous la vie éternelle. Il ne pouvait rester dans la tombe. Le Nouveau Testament nous explique que si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. La résurrection de Jésus, sa mort, sa vie, c'est un ensemble cohérent et chaque morceau de ce plan du salut est d'une extrême importance. Jésus a ouvert la porte du tombeau. Mais cette porte du tombeau, Jésus l'a ouverte aussi pour nous. Vous vous souvenez, devant la tombe de Lazare, il essayait de faire comprendre à Marthe, qui avait du mal à voir beaucoup plus loin que la tombe et la mort de son frère, Jésus essaie de lui montrer une perspective plus grande. Et vous vous souvenez comment il lui dit, « Mais ton frère ressuscitera. » « Oui, je sais, dit Marthe, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. » Mais Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui va le ressusciter au dernier jour, qui penses-tu que c'est, si ce n'est moi, dit Jésus. Et si je le fais au dernier jour, est-ce que je ne peux pas le faire maintenant ?» Marthe a du mal à aller si loin. Mais Jésus lui a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Ayant gagné ce droit, ayant lui-même ouvert la porte du tombeau, il nous donne la garantie de pouvoir ouvrir la porte de notre tombeau à nous et de tous ceux qui dorment en Jésus-Christ. C'est une grâce parce que c'est une porte que lui seul peut ouvrir. Personne d'autre ne peut ouvrir cette tombe. D'ailleurs, toutes les portes que Jésus ouvre pour ses malades, qu'ils soient sourds, qu'ils soient aveugles, c'est une image un peu de ce qui se passera à la résurrection. Parce que pour celui qui est aveugle, la première image qu'ils ont vue, c'est l'image du visage de Jésus qui leur sourit de plaisir en les voyant restaurés. La première voix qu'ils ont entendue, c'est la voix de Jésus. Et il en sera ainsi au jour de la résurrection. Ceux qui se réveilleront d'entre les morts, c'est le regard de Jésus qu'ils verront en premier, c'est le son de sa voix, c'est le son glorieux de son retour. Il a ouvert la porte du tombeau. Est-ce que nous avons l'assurance d'avoir en Jésus-Christ notre résurrection et notre vie? Avez-vous l'assurance qu'il ouvrira aussi votre tombeau si c'est nécessaire pour vous donner la grâce de participer à sa gloire? Jésus a ouvert cette porte et il l'a ouverte aussi pour nous. Il y a une sixième porte que Jésus a ouverte. Il en est question dans l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Nous lirons à partir du verset 19. Hébreux chapitre 10, verset 19. Il est écrit ceci. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Jésus a ouvert le ciel pour nous, un chemin nouveau, une route nouvelle et vivante, inaugurée par lui-même. Jésus n'a pas simplement ouvert la porte du tombeau, en remontant au ciel, il a ouvert la porte du ciel pour nous. Grâce à lui, nous dit ce texte, nous avons, nous, une libre entrée dans le sanctuaire céleste. Nous avons dans le psaume 24 un passage que j'aimerais relire avec vous parce que c'est ce passage qui est reçu comme étant le cantique des anges qui reçoivent Jésus lors de son ascension. Dans le psaume 24, au verset 7, il est dit « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. « Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. C'était un cantique, c'était chanté, et nous n'aurons aucune idée de ce qu'était le chant des anges qui ont chanté cela à l'accueil de Jésus dans les cieux lorsqu'il est remonté dans les parvis célestes. Jésus, ce faisant, a ouvert pour nous une voie nouvelle. Nous avons accès au sanctuaire céleste par Jésus-Christ. L'apôtre Paul le rappelle d'une autre manière dans l'Épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens au chapitre 2. Épître aux Éphésiens chapitre 2 au verset 6. Il est question de Dieu et il dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Voilà ce que Dieu a fait par Jésus-Christ qui a ouvert la porte du ciel pour chacun d'entre nous. Il nous a permis d'être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, assis à la droite de Dieu. Je sais que tout au long de la semaine, nous sommes préoccupés avec les difficultés du travail, de l'école, de tout un tas de choses. Mais la parole de Dieu est là pour nous rappeler qu'une voie a été ouverte par Jésus pour que nous puissions avoir accès au sanctuaire céleste. Nous avons à côté de Dieu, face à Dieu, le représentant de l'humanité en Jésus-Christ. Notre foi en lui nous fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cette voie ouverte, c'est en réalité une prophétie qui trouvera sa réalisation complète et totale lorsque Jésus reviendra et qu'il utilisera cette voie ouverte pour nous emmener dans la cité céleste. Cette voie est déjà ouverte. Elle est en sorte la promesse que ce que le Seigneur a commencé, il l'achèvera pour tous ceux pour qui il est leur sauveur personnel. Par cette voie, nous savons que nous pouvons nous approcher de Dieu par lui et être secourus dans nos besoins. La même épître aux Hébreux nous rappelle que Jésus est dans les lieux célestes en train d'intercéder pour nous. Son ministère pour nous est d'une extrême importance. Nous avons besoin de sa prière pour nous aujourd'hui. Vous vous souvenez? Il avait dit à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Nous avons besoin que le Seigneur prie aussi pour nous et intercède dans les lieux célestes pour que notre foi ne défaille point. Cette porte que Jésus ouvre a plusieurs dimensions. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4, nous retrouvons une porte. Il est dit dans le premier verset, Apocalypse chapitre 4, verset 1er, « Après cela, je regardais et voici, une porte avait été ouverte dans le ciel. » La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » On retrouve là des notions que l'on a dans l'Ancien Testament. C'est à la porte que les jugements étaient rendus par les anciens. Et puis, dans ce même verset, il est question du son de la trompette. Dans l'Ancien Testament, le son de la trompette, c'était l'annonce du jugement de Dieu. Nous retrouvons dans ce contexte cette porte qui s'ouvre. Le Seigneur lui-même a ouvert la porte du lieu très saint du sanctuaire dans lequel il est entré pour commencer le jugement de son peuple. Jugement qui est d'ailleurs bonne nouvelle. Parce qu'en réalité, il est aussi le seul, et c'est le chapitre 5 qui nous le dit dans l'Apocalypse, il est le seul à pouvoir ouvrir le livre pour que le jugement ait lieu. Il est le seul à pouvoir le faire parce qu'il est l'agneau immolé. Ce jugement est une bonne nouvelle. Ce n'est pas quelque chose que nous ayons à craindre Vous vous souvenez comment le psalmiste voit le jugement? Regardez dans le livre des psaumes, dans le psaume 98. Psaume 98, où le psalmiste éclate de joie à cause de la perspective du jugement. Au verset 6, il est écrit ceci. Avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, pour juger le monde avec justice et les peuples avec équité. Et à plusieurs reprises dans le livre des psaumes, le psalmiste s'adresse à Dieu. « Juge-moi, ô Éternel !» Le psalmiste appelle ce jugement de Dieu parce que le jugement de Dieu, c'est la réhabilitation en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas d'abord la condamnation, c'est la réhabilitation. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, à être réhabilités pleinement dans notre statut de fils et de fille de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a ouvert cette voie dans le ciel, dans lequel nous pouvons aller par la foi en Jésus-Christ, et dans lequel le Seigneur nous fera la grâce d'aller bientôt lors de son prochain retour. Notre attachement à celui qui a ouvert cette porte est notre garantie que nous pouvons avoir accès par lui au sanctuaire céleste. Quel est cet attachement à celui qui a ouvert la porte? La dernière porte que le Seigneur veut ouvrir, il en est question encore dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. Dans un texte que vous connaissez bien, qui fait partie de cette lettre que Jésus envoie à la dernière église, il est dit au verset 20, Apocalypse, chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » La dernière porte que Jésus veut ouvrir, c'est la porte de notre vie, de notre existence. Et vous vous souvenez de ces illustrations qui sont faites où l'on voit Jésus qui frappe à la porte d'une maison, mais à cette porte, il n'y a pas de poignée à l'extérieur. C'est parce que c'est une porte qui ne s'ouvre que depuis l'intérieur. Si Jésus a opéré ce miracle en réponse à la foi de ses contemporains en ouvrant la porte des yeux, en ouvrant la porte des oreilles, cette porte-là de notre vie, Jésus ne va pas la défoncer. Jésus dit « Je frappe à la porte ». Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai. Il ne va pas la défoncer, cette porte. Il attend que nous l'ouvrions, nous. C'est cette septième porte par laquelle Jésus pourra entrer dans notre existence. Mais qu'est-ce que ça veut dire que d'ouvrir la porte de notre vie? Ouvrir à Jésus pour qu'il entre, c'est accepter son plan du salut à lui pour nous. Non pas notre plan à nous, mais le sien. Ouvrir à Jésus, c'est accepter de prendre ses priorités et d'abandonner les nôtres. Ouvrir à Jésus, c'est accepter de laisser tomber tout ce qui nous retient dans ce monde de matériel, toutes ces priorités que le monde place sur nous pour prendre comme priorité le développement d'un caractère semblable au sien. Ouvrir à Jésus, c'est accepter qu'il soit prioritaire dans notre existence, que sa parole soit prioritaire, que ses commandements passent avant les nôtres et avant ceux du monde ou avant ceux de la nécessité. Ouvrir à Jésus, c'est lui permettre de faire en nous ce nettoyage nécessaire de tout le mal qui s'y est accumulé au travers du temps, soit par nos actions, soit par nos sentiments, par nos émotions. D'ailleurs, ce matin, en participant à cette Sainte Cène, en participant à ce repas symbolique, c'est pour nous le moyen d'ouvrir la porte pour que Jésus entre dans notre vie, fasse le nettoyage nécessaire comme il l'a promis. Et ouvrir la porte à Jésus de cette manière-là, c'est véritablement lui permettre d'ouvrir toutes les autres portes, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir sa parole, d'ouvrir pour nous les cieux où il intercède déjà en notre faveur. La Bible elle-même se termine sur cette image de la porte ouverte. Une porte que Jésus ne voudrait surtout pas que nous manquions. C'est la raison pour laquelle on la retrouve dans la dernière page de l'Apocalypse. Au chapitre 22, au verset 14, il est dit, et c'est la dernière des sept béatitudes qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Dans cette dernière béatitude, il est dit, « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Le Seigneur nous a ouvert les portes de cette ville. Le Seigneur, par son ministère, nous a donné la possibilité et de laver notre robe et de rentrer par la porte de la ville. C'est aussi ce que nous voulons faire en participant à la Sainte Cène. Laver notre robe, recevoir sa robe de justice à lui. Et bientôt, le Seigneur ouvrira pour nous les portes de la Nouvelle Jérusalem. Que le Seigneur nous y trouve, chacun. Amen.